Je suis en compagnie d'Éloire Brazé lors du Festival des Imaginaires de Vendôme. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Alors, me présenter, eh bien, écoutez, ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur le monde du merveilleux et de la féerie. J'ai publié un certain nombre d'ouvrages sur le sujet, notamment une encyclopédie du merveilleux qui recense l'ensemble, en tout cas, une grande partie des créatures imaginaires, qu'il s'agisse des fées, des elfes, des nains, des gnomes, des sirènes, ou bien des animaux fantastiques comme les dragons, etc. Donc, je me suis fait une spécialisation du monde de féerie, du monde du merveilleux.
Cette passion est née comment ? Souvent, c'est petit enfant avec des légendes familiales.
Ah oui, ça vient de l'enfance, c'est-à-dire que j'avais une grand-mère à histoire. J'avais la fameuse grand-mère à histoire qui donne le goût en fait des contes et de l'imaginaire. Et alors j'avais la chance que cette grand-mère en fait n'avait pas de répertoire de contes. C'est-à-dire qu'elle ne connaissait pas l'histoire, elle me lisait toujours le même conte dans un livre qu'on avait. Et puis je disais, mamie, ça va, je la connais par cœur cette histoire, invente. Et je l'obligeais à inventer des histoires. Alors elle me disait, écoute, non, je suis à court d'inspiration, vas-y toi. Et moi, j'inventais des histoires. Donc, c'était cette connivence, en fait, avec ma grand-mère qui m'a donné le goût de raconter et d'inventer des histoires. Ça m'est un peu resté après, quoi.
Du coup, vous vous êtes orienté sur le merveilleux, avec un côté vraiment, on va dire, respect celtique. Ou est-ce que vous dérivez aussi avec des légendes plus scandinaves ou rattrapé avec de la mythologie ancienne ?
Alors c'est vrai que le répertoire celtique est le plus riche, le plus évident dans ce qui concerne vraiment la féerie. Ne serait-ce parce que les fées celtiques correspondent aux femmes idéales. Et quand on lit la saga du roi Arthur, les fées se confondent avec les dames dans l'univers courtois. Enfin, il y a un rapprochement assez évident. Mais ce monde merveilleux est aussi présent, aussi riche dans le répertoire nordique, voire latin. C'est vrai, je ne me suis pas contenté d'explorer l'univers celtique, mais dans mes livres, je pars de tout ce qui... Disons, de l'ensemble des mythologies, essentiellement quand même européennes, mythologies anciennes, et puis les contes et légendes qui en sont dérivés.
C'est pour ça qu'on en arrive jusqu'au monde des pirates et des flibustiers.
Oui, mais c'est vrai que c'est... On peut se dire, c'est bizarre les pirates et les flibustiers, mais en fait, pour moi, ça correspond au même imaginaire. Pourquoi ? Parce que, en fait... Ce qui rapproche ce monde-là de celui, par exemple, des nains ou des gnomes, c'est qu'il y a une partie réelle, on peut dire, une partie historique, et puis une partie fantasmée, une partie imaginaire. Alors, dans les pirates, oui, parce que les pirates ont vraiment existé, mais on sait très bien que les légendes qui leur sont associées sont évidemment largement inventées, y compris par eux. Donc l'histoire des pirates, c'est forcément une histoire à la fois vraie et puis complètement magnifiée par l'image qu'on en a aujourd'hui, ne serait-ce que par les films, etc. Et c'est un petit peu la même chose avec le monde de féerie. C'est-à-dire que, par exemple, au 19e siècle, il y avait une théorie qu'on appelait la pygmée théorie, qui disait que ces gnomes avaient existé réellement, qu'il s'agissait de tribus originaires, par exemple, de Mongolie. Donc c'était des peuples de chamans, des peuples magiques, et qui en fait étaient descendus en Europe par le nord de l'Écosse. Et voilà, puis après c'était retrouvé confronté aux Celtes, et en fait les Celtes les avaient plus ou moins combattus, éradiqués. Ils s'étaient dans un premier temps réfugiés dans des montagnes, dans des grottes, et puis ensuite avaient disparu. Ayant disparu, ils étaient rentrés dans la légende. Et je crois assez à cette théorie-là, en fait, et se dire que, en fait, ces êtres qu'on pense complètement imaginaires ont peut-être une existence réelle un jour. Et cette existence, bien sûr, a été magnifiée encore une fois par la légende.
Le choix de partir sur des tout petits recueils, là, je vois, il y a les dragons, les elfes, ou sinon des choses comme Grimoire, Sortilège ou Envoûtement, ou vraiment après l'encyclopédie. Comment on fait le choix entre... Est-ce que, à la limite, le début d'une écriture peut transformer l'ouvrage au final, ou c'est l'inverse, c'est déjà l'idée de l'ouvrage qui oblige un certain travail sur l'écriture?
Alors moi, c'est parti d'une idée très précise que j'ai eue depuis assez longtemps, et qui était la suivante, c'est que, contrairement à l'Angleterre, où il existe depuis assez longtemps déjà des encyclopédies, un peu de ce genre-là, notamment une femme comme un auteur comme Catherine Briggs a écrit dans les années 70 des compilations comme ça de collectages d'histoires qu'elle avait trouvées dans les campagnes anglaises sur les pixies, sur le brownie, sur l'ensemble des peuples imaginaires d'Angleterre ou d'Écosse et d'Irlande. Et en France, à part les livres qu'avait commencé à publier Pierre Dubois à l'époque il avait fait uniquement son encyclopédie des lutins, mais il n'existait pas d'équivalent. Alors moi c'était vraiment une idée, c'était de vouloir faire une sorte de répertoire comme ça, des peuples magiques, ce qui n'existait pas à l'époque il y a 10 ans, 12 ans à peu près en France. Alors j'ai commencé à faire un ensemble de livres qui ont été réunis récemment par Pygmalion en un seul volume, qui s'appelait L'univers féerique. Et là, bon, bah, c'était en fait les histoires. Alors, il y avait fées et elfes, sirènes et ondines, géants et dragons, sorcières et démons, nains et gnomes, chaque fois des livres qui présentaient à la fois l'origine de ces peuples, leurs origines mythologiques, légendaires, puis leurs mœurs, la façon de vivre, etc. Puis des contes, des légendes. Et ensuite, c'était la rencontre avec l'éditeur, en l'occurrence Préauclair, avec qui on a décidé d'en faire une vraie encyclopédie, alors illustrée, avec bon des chapitres, avec un classement alphabétique, enfin comme une vraie encyclopédie. Et en fait, ça a répondu effectivement à un besoin parce que les gens, les lecteurs ont, de tous âges d'ailleurs, ont pu trouver dans cette encyclopédie une sorte de base de documentation en quelque sorte. Donc elle peut se lire comme un livre, quoi, un beau livre, et puis en même temps, elle peut servir de documentation. Et l'idée de faire des petits livres qui en sont un peu dérivés, c'est là aussi, alors vraiment centré sur un peuple magique, les fées, les elfes, les dragons, etc. Faire un tout petit livre qu'on peut avoir dans la poche, petit livre illustré, qui est un peu comme un field guide, quoi, un livre comme un herbier, comme un livre de référence qu'on a dans la poche si on va à la rencontre des peuples imaginaires, ou bien qu'on peut offrir à quelqu'un pour avoir une petite idée comme ça de ces personnages.
Votre peuple merveilleux préféré, si vous en avez un?
Alors, ce sont quand même les fées. Je dirais, bah oui, parce que les fées sont à la fois... les fées nous accompagnent, en quelque sorte. Elles sont à l'origine de notre naissance, puisque ce sont les fées qui sont les marraines. Donc, ce sont les bonnes fées marraines qui apportent aux humains, à leur naissance, les dons, les grâces, etc. Et puis, plus tard, c'est la femme idéale. C'est la femme qu'on rencontre... qui est très belle, avec qui on veut partager la vie. Et c'est aussi parfois la mauvaise fée, c'est-à-dire que la fée qui se venge, la fée jalouse, ça peut être la fée qui apporte la mort aussi. Elle ressemble un peu au parc de la mythologie ancienne, hein, mythologie gréco-romaine, c'est ou au Norn de la mythologie du Nord. C'est-à-dire c'est un être merveilleux qui est de l'autre côté des apparences, qui vit en Avalon, qui vit dans les territoires enchantés de la féerie, mais qui en fait s'intéresse au sort des hommes. Et les hommes s'intéressent à elle, et justement parce que ça leur permet d'avoir cette part d'anima, hein, cette part féminine qui est représentée par la fée, et puis en même temps cette attirance vers ces royaumes imaginaires où elle est reine. Et c'est vrai que, par exemple, dans la mythologie celtique, la fée, c'est un peu la gardienne des enfers, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour les Celtes, l'enfer et le paradis n'était pas sous terre ou dans le ciel, mais dans une île enchantée qui était dans l'océan du Nord, dans l'océan de l'Ouest, le grand océan de l'Ouest. Et c'est comme Arthur, d'ailleurs, il est allé après sa dormition, bon, Arthur a trouvé refuge en Avalon, dans cette île de l'Ouest. Alors c'est cette île-là que, peut-être après notre mort, on va se retrouver dans un monde avec des fées autour de nous qui nous souhaiteront la bienvenue et qui nous assureront l'espèce de bonheur immortel comme ça.
Avec tous vos ouvrages, est-ce que vous avez fait le tour de la question ou est-ce qu'il vous reste encore des endroits à explorer, à détailler?
Alors, on n'a jamais fait le tour. Heureusement, c'est un univers tellement riche, tellement vaste. D'ailleurs, j'ai plus que des projets, des réalisations, parce que ce seront des publications qui auront lieu cette année, en automne. L'un, c'est de poursuivre cette œuvre d'encyclopédie à travers l'encyclopédie légendaire, dans laquelle, pour le premier tome, j'explorerai les armes magiques, les trésors, les anneaux, enfin, tout ce qui correspond à leurs objets, mais qui sont bien sûr plus que des objets. Et donc c'est le début d'une nouvelle série, puisqu'après il y aura les héros et puis enfin les lieux justement, qu'elles soient Vallon, Brocéliande, etc. Puis un autre projet qui sera une série romanesque, en fait, dont le premier tome sortira en octobre, et c'est un cycle de 4 romans fantasy, en quelque sorte, inspiré des mythologies nordiques, des Valkyries, des dieux, Asgard, Odin, etc. Ça s'appellera Les Chants de la Valkyrie. Et là aussi, c'est une façon de redonner, en quelque sorte, vie à ces mythologies anciennes par le biais du roman.
C'est ce que vous avez sous le coude.
Comment ?
C'est ce que vous avez sous le coude, oui, Les Chants de la Valkyrie.
Relire les épreuves, justement. Donc voilà, et c'est sans fin, parce qu'évidemment, on peut... Et c'est, d'ailleurs, c'était un peu la volonté que j'avais quand j'ai commencé à faire ces livres, je dirais vraiment de documentation. C'était à la fois de pour moi-même, déjà, pénétrer en quelque sorte, vivre avec tout cet univers qui est très très vaste, et puis le donner à lire et connaître à ceux qui l'ignoraient encore. Et dans mon esprit, c'était, une fois que je l'aurais bien intégré, cet univers, c'est de retourner au monde du roman, justement pour... non pas pour inventer des histoires, mais pour justement redonner un souffle, retrouver le souffle de l'épopée en quelque sorte, de la saga, comme le faisaient les anciens scalds ou les anciens bardes, c'est-à-dire à partir de toutes ces histoires, leur redonner un souffle actuel pour les redécouvrir ou les découvrir pour ceux qui les ignorent.
Le recueil, La Bonne Cuisine des Fées, ça s'est fait comment, ces petites choses?
Mais là, ça s'est fait, c'était une rencontre en fait avec un ami qui connaît bien la cuisine, qui aime bien manger, et en fait qui avait le projet de faire un livre de cuisine. Et il me disait, mais c'est intéressant, est-ce qu'on pourrait pas faire un livre de cuisine inspiré par le monde des fées? Et je lui dis, ben si, c'est une très bonne idée, parce que on peut associer les êtres féeriques aux saisons, et la cuisine bien sûr aussi aux saisons. Et en fait, on a fait ce livre-là par saison, c'est-à-dire que chaque saison correspond à une créature merveilleuse et un type de cuisine. Alors le printemps, c'est la cuisine des fées, cuisine à base de verdure, de légumes, de fruits, etc. L'été, c'est la cuisine des sirènes avec les produits de la mer. L'automne, la cuisine des elfes qui sont des chasseurs, donc ce sont c'est le gibier, c'est les volailles, enfin les légumes d'automne. Et puis l'hiver, c'est la cuisine des ogres. Alors là, la viande rouge, les céréales, tout. Les conserves, puis le vin rouge, bien sûr, la nourriture bien consistante. Et ça fonctionne assez bien. Alors, c'est intéressant parce que ça permet après de faire les plats en fonction des saisons et de conjuguer la cuisine, qui est une magie aussi, hein, qui est une sorcellerie en quelque sorte, avec la magie, la sorcellerie de la féerie.
Quelque chose d'autre à nous dire?
Eh bien, en même temps, je trouve que c'est intéressant d'être dans cette région ici, où je trouve qu'on a bien, dans la région de Tours, il y a cette ville troglodytique, TRO2O, qui est dans la région de Tours, et avec ces habitations troglodytiques. Et chaque fois que j'y passe, je pense justement à ces nains, à ces gnomes, en disant que peut-être qu'il y a très très longtemps, peut-être des millénaires, eh bien, ces caves étaient peut-être hantées par ce qu'on appelle aujourd'hui les nains et les gnomes, et qui vivaient, et qui faisaient leur magie, leur sortilège. Et quand on y retourne, bon, on peut se dire qu'au détour comme ça, en fractuosité du rocher, on va se retrouver une année avec un de ces êtres qui aura subsisté à travers les siècles. Et voilà, c'est une façon aussi de réenchanter l'univers dans lequel on vit, ou dans lequel on peut passer comme ça pour son plaisir. Et d'allier justement, encore une fois, l'imaginaire et la réalité. Puis c'est ce qui fait le plaisir et le bonheur de la vie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.